Ça n'est pas fini, puisque vous avez un micro à votre disposition. Si vous souhaitez poser des questions à Marie Ndiaye, réagir, profitez-en. Voilà, monsieur devant, Sibyl.
Bonjour. Merci en tout cas pour ces émotions que vous m'avez données en lisant votre livre, surtout que j'ai vécu un certain nombre d'années dans votre pays, au Sénégal. Ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai vu ces trois femmes comme trois délivrances, et je vois leur puissance dans justement cette capacité à se délivrer de quelque chose qui les empêchait de vivre. Alors la première, ça peut être l'histoire familiale avec le père, etc. La deuxième, cette histoire d'amour qui s'est mal passée par la suite. Et la troisième, cette soumission qui l'empêche de vivre, et finalement elle prend la décision de s'en libérer et de faire ce qu'elle a à faire. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision ?
C'est tout à fait ça, oui. Oui. Ce sont trois histoires de délivrance, oui. C'est pour ça aussi que je voulais qu'il y ait ce mot donc, de puissante dans le titre. Le titre aurait pu être trois femmes libérées, mais c'est pas très beau. Mais dans le sens, oui, cela aurait pu être ce mot-là aussi dans le titre. C'est tout à fait ça.
Monsieur.
Si. Vous avez dit que votre frère vous avait fait découvrir certains aspects que vous ne connaissiez pas dans la vie des immigrés en France. Est-ce qu'on pourrait savoir quels sont ces aspects ?
Alors, en fait, tout cela est parti d'observations très pratiques que mon frère a faites. Donc, il a maintenant 43 ans. Il a eu un parcours universitaire brillant. Il est entré très tôt à le HESS, l'École des hautes études en sciences sociales, comme historien des États-Unis. Et il croyait vraiment extrêmement intensément en la République et égalisatrice, c'est-à-dire il était vraiment contre la notion de minorité. Il pensait que voilà, il était vraiment pour ce qu'on pourrait appeler la méritocratie, quel que soit l'endroit d'où l'on vient. Et puis il vit depuis quelques années dans le nord de Paris, dans le 20e arrondissement, et presque chaque jour il prend le RER à Gare du Nord. Et à de nombreuses reprises, alors mon frère est un homme extrêmement classique dans son apparence. Il circule toujours en costume, cravate, etc. Je ne précise pas cela pour laisser entendre qu'on devrait plus inquiéter les gens qui sont en sweat et en jean, mais il se trouve que lui est vraiment un homme très, très convenable et sérieux dans son apparence. Et à de nombreuses reprises, donc, il s'est fait contrôler par des policiers, contrôle d'identité, et avec en général une grande brutalité, c'est-à-dire le tue d'emblée, etc., etc. Et il a donc bien compris que si ces contrôles avaient lieu et de cette manière aussi discourtoise, c'était parce qu'il est un homme noir. Et du coup, il s'est mis à réfléchir autrement aux choses. C'est-à-dire, il s'est dit, dans mon cas, c'est pas très grave. Je suis professeur, j'ai une vie stable et agréable, etc. Donc, ce n'est pas le genre de choses qui me traumatise. Mais qu'est-ce que cela peut faire dans la tête d'un garçon de 20 ans qui n'a pas les chances que que j'ai, etc. Et il s'est mis donc à imaginer effectivement le très fort sentiment d'humiliation et de rejet que devaient ressentir tout un tas de jeunes gens abordés aussi brutalement par des flics. Et du coup, donc, il s'est mis à travailler sur la manière dont les Noirs de France vivent, se voient en France, sont traités, et il a mené une longue enquête, là, plus journalistique qu'historienne, et il a rencontré toutes sortes de gens. Et lui, qui n'avait jamais eu non plus à envoyer de demande d'emploi, etc., parce que c'est un fonctionnaire, s'est rendu compte que ces gens lui parlaient très souvent de l'impossibilité de rencontrer un employeur à cause de leur nom ou de leur peau, ou de louer un logement pour les mêmes raisons. Et cette réflexion-là l'a donc amené à écrire ce livre, dans lequel finalement il aspire simplement à ce que cette minorité visible que sont les Noirs en France, visible du fait de leur peau, devienne invisible, au sens où il n'y ait plus de différence de traitement entre elles et les Français blancs. Voilà en gros l'histoire.
Bonjour.
Bonjour.
Alors moi j'aurais trois questions. La première est curieuse si vous n'avez pas envie de répondre, hein, si elle fait partie de votre vie privée. C'est pourquoi ce choix de Berlin, cette capitale européenne, mais on parle beaucoup de Londres, Madrid, New York, enfin tout le monde voyage. Berlin, ce choix. Les deux autres questionnent votre roman. Donc moi, fondamentalement, je les ai trouvées terriblement puissantes. Et je les ai mises en parallèle avec les femmes de Véronique Ovalde dans ce que je sais de Vera Candida. Des femmes qui, au fond, moi, je les ai ressenties comme silencieuses, mais elles tracent leur route. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont incroyablement déterminées. C'est comme ça que je les ai vécues. Mes questions sont sur les deux premiers récits. Elle, Nora, par rapport à son... J'ai envie de dire, elle... Ma question serait... Enfin, il n'y a pas de pardon, quoi, par rapport à son père, qui a vraiment un poids énorme dans ce qu'il a imprégné sur ses enfants. Mais il n'empêche qu'elle continue. Alors je voudrais que vous me disiez ça, parce que vous aviez parlé du judéo-chrétien, culpabilité. Elle, est-ce qu'il n'y a pas pardon? Comment elle est? Parce que ce père, il est non seulement implacable, mais pire qu'odieux, quoi. Il est... Bref. Et puis ma seconde question, elle concerne le personnage masculin et sa femme, que j'ai trouvée terriblement silencieuse. Mais finalement, quand il rentre en France pour cette histoire tragique, là, dans le lycée où il est prof, elle, il l'enlève de sa fonction de prof où elle trouve un bel épanouissement. Mais je trouve que par son silence, sa femme, elle l'amène à se poser des questions parce qu'il a fermé plein de rideaux sur l'événement avec les élèves au lycée. Il a fait semblant, en fait, au fond, grosso modo, que le pauvre, il était... Mais elle, par son silence, elle le conduit à une espèce de vérité intérieure. Moi, je les trouve magnifiques, ces femmes. Alors, si vous pouviez répondre aux deux questions, la première, c'est à vous de voir.
Merci. Oh, ben la première, c'est finalement assez simple. Depuis 2 ans, enfin, il nous apparaissait à Jean-Yves Sandré, avec lequel je vis, et moi-même, que l'atmosphère en France n'était pas spécialement agréable ou enthousiasmante. Enfin, on avait l'impression, et j'en discutais tout à l'heure en déjeunant, qu'il y avait comme un sentiment de dépression ici depuis 2 ans et demi. Et voilà, donc on a eu envie de...